Vous écoutez On lit pour vous.
Un premier club de lecture jeunesse estivale 100% québécois. Un texte de Roxane Léouzou, paru le 4 juin 2025 dans Le Devoir. La plongeuse olympique Jennifer Abel et l'autrice et illustratrice Marianne Dubuc sont les porte-parole d'un tout nouveau programme culturel destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Le Biblioclub, lancé mercredi le 4 juin 2025, est le premier club de lecture jeunesse estivale purement québécois déployé dans le réseau des bibliothèques publiques. L'objectif est de rendre la lecture amusante, mais également de contrer la perte des acquis scolaires pendant l'été, a expliqué Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ. Les clubs de lecture pour enfants ne sont pas nouveaux. Ils font même partie des activités phares des bibliothèques depuis plusieurs années, notamment avec le club de lecture d'été TD, élaboré par la Bibliothèque publique de Toronto en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada. Ce qui est nouveau, c'est que ça met en avant des contenus québécois et autochtones et que ce soit coordonné au Québec, a souligné Mme Lagacé. Le programme est mis en place grâce à un financement du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Langue française du Québec de l'ordre de 275 000 $ selon la directrice générale. Heure du compte, rencontre avec des auteurs, bricolage, animation à l'extérieur, suggestions de lecture, chacune des 130 bibliothèques participantes aura une programmation particulière adaptée aux besoins de sa clientèle. Le thème qui chapeaute le tout est celui de la forêt. On a souhaité mettre en valeur différents types de littératie, dont la littératie scientifique. C'est sous cet angle-là qu'on veut faire découvrir aux enfants ce qu'on retrouve en nature, comme les insectes, les animaux et la végétation. On travaille cette année avec une illustratrice biologiste. On a une collaboration avec la CEPAC, Société des établissements de plein air du Québec, pour des animations par des guides naturalistes, a détaillé Mme Lagacé. Lecture active pour enfants sportifs. Selon Jennifer Abel, cette approche dynamique serait bénéfique pour les enfants actifs. Mes parents ont dû travailler fort pour que je reste assise et je vis la même chose avec mes enfants, a admis l'athlète lors du lancement qui avait lieu au Parc national des îles de Boucherville. Mais il y a des livres interactifs qui font bouger les enfants, qui parlent d'une chasse au trésor, par exemple. Lire sur les oiseaux, puis aller à la recherche de ceux-ci dans un parc, c'est intéressant pour les enfants qui ont beaucoup d'énergie. De son côté, Marianne Dubuc a constaté les effets positifs de la lecture sur le parcours scolaire de ses enfants. Pour les enfants qui adorent déjà la lecture, c'est le fun. Mais pour ceux qui ont des difficultés ou qui y ont moins accès, le Biblioclub est peut-être encore plus important. Ça permet d'associer la lecture au plaisir et moins à l'école, a-t-elle jugé. Les parents pourront inscrire dès jeudi leurs enfants aux activités ludiques qui les intéressent, dont la durée varie de quelques heures jusqu'à une demi-journée. Un volet en ligne à l'adresse biblioclub.ca fournira aussi du matériel d'accompagnement pour les parents, des défis, des jeux questionnaires et des concours. Les jeunes seront invités à suivre leur progression en notant les livres qu'ils ont empruntés et le temps qu'ils leur consacrent. Dans un souci d'inclure tous les enfants, l'ABPQ a travaillé pour ce projet avec l'Institut des troubles d'apprentissage et le Service québécois du livre adapté de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Pour rejoindre le plus de familles possible, l'association organise aussi une tournée de promotion et d'animation dans plusieurs festivals à bord d'un véhicule électrique, la Biblio Caravane. En 2026, Madame Lagacé espère pouvoir élargir le club aux adolescents. C'était un premier club de lecture jeunesse estivale 100% québécois, un texte de Roxane Léouzou, paru le 4 juin 2025 dans Le Devoir.
Les yeux ne font pas le regard. Est-ce eux ou nous qui ne voyons plus? Un texte de Magdalene Boutros, paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir. Dans une forêt, tout est embrouillé. Quand j'ai compris que je ne voyais plus, c'était la fin de ma vie. J'avais peur de tout. À 13 ans, Neboïcha a perdu la vue après avoir été blessée par une mine antipersonnelle en Bosnie. Anja, elle, avait 12 ans lorsque l'explosion d'un vestige de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne l'a privée de son regard. A-t-on tiré des leçons de ces drames? Non, soupire-t-elle, puisque ceux qui devraient voir sont devenus aveugles d'esprit. Dans Les yeux ne font pas le regard, le cinéaste québécois Simon Plouffe nous plonge dans une expérience immersive où l'on part à la rencontre de protagonistes ayant perdu la vue dans des conflits armés, des gens rencontrés aux quatre coins du globe qui « portent la guerre en eux », dit-il en entrevue. Une expérience sensorielle guidée par le bruit assourdissant des guerres et surtout par les paroles de ces malvoyants qui nous déroulent leurs histoires par bribes éminemment humaines. Je ne voulais pas entrer dans les détails géopolitiques des conflits, explique le réalisateur. C'est pour ça que je voulais multiplier les regards, pour avoir une diversité de points de vue et d'expériences. Une approche qui laisse de côté le politique pour se centrer sur les individus, surtout des civils, victimes collatérales des guerres. Aux côtés de Neboïssa et d'Anja s'ajoute Yukizo, rendu aveugle après avoir été privé de soins lorsque Tokyo a été incendié par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, et Rodion, qui a perdu un œil dans la guerre du Donbass en Ukraine en 2014-2015. Dans ce voyage sur des terrains de guerre, pour la plupart pacifiés, mais qui perdurent dans ces corps mutilés, certaines images présentées aux spectateurs sont voilées. Des archives ont aussi été délibérément assombries, ce qui joue avec nos perceptions. J'ai voulu développer le film de façon sensorielle pour interroger le regard, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, explique Simon Plouffe. À travers le son, l'image, les archives, on fait notre propre interprétation sans que ça devienne totalement expérimental, mais c'est assez exploratoire. Au-delà des drames vécus et de la résilience des protagonistes, quand j'ai perdu la vue, j'ai appris à voir, dira Anja. Le film nous amène à nous projeter dans leur vécu. Comment s'orientent-ils? Leur toucher, leur oui, leur odorat, se sont-ils davantage développés? Aveuglement. Le récit tissé par Simon Plouffe nous amène ensuite à pousser la réflexion plus loin. Sur notre aveuglement face à la multiplicité des conflits armés dans le monde et à la souffrance qu'ils laissent derrière eux. Un détournement du regard peut être causé par notre impuissance ou par la surabondance d'images. Je pense qu'on est à la limite presque aseptisé, désintéressé. Ce message pacifiste ne tombe en rien dans la moralisation. Le cinéaste ayant fait le choix d'emprunter un chemin de traverse plutôt que de se servir d'images chocs frappant l'imaginaire. Je crois plus à prendre le temps à écouter les gens qui ont des choses extraordinaires à faire partager, puis à réfléchir. Le récit de Rodion, qui arbore un œil de pirate, trace immuable du passage des Russes dans son pays, transperce la résilience. Ney Boïssa nous parle de réconciliation, même si ceux qui ont miné la maison de ses grands-parents savaient que quelqu'un allait être blessé, dit-il. Yukizo, qui se faisait décrire par ses amis les bombes incendiaires larguées sur Tokyo, évoque le devoir de mémoire. Anja, la seule de son groupe d'amis ayant survécu lorsqu'un débris a explosé dans la forêt des décennies après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a appris à vivre avec des éclats d'obus dans son corps. Un rappel constant que les guerres ne finissent jamais, comme ces épaves de bateaux nazis que l'on peut voir vers la fin du film et qui refont surface dans le Danube lors de sécheresses. Un symbole des fantômes du passé qui reviennent et qui nous hantent toujours, relève Simon Plouffe. C'était « Les yeux ne font pas le regard. Est-ce eux ou nous qui ne voyons plus ?» Un texte de Magdalene Boutros paru le 29 mai 2025 dans Le Devoir.
Raphaël Germain et elles vécurent heureuses. Un texte de Catherine Genet paru le 10 juin 2025 dans Les libraires. Trois générations de femmes coexistent dans Plage Laval. Une adolescente qui se cherche, une aînée atteinte de la maladie d'Alzheimer et une presque quinquagénaire en perte d'équilibre après une séparation. À travers cette dernière, Raphaël Germain se raconte avec pudeur. Après avoir fait équipe avec Dominique Fortier sous la supervision d'Alto, pour mémoire, contribué à la collection 3 de Québec-Amérique, Forteresse et autres refuges, et publié un essai, Un présent infini, chez Atelier 10, Raphaël Germain revient aux sources, à la fiction. Je ne pensais pas réécrire un roman comme ça. Ça fait 12 ans que je n'en avais pas écrit. J'ai eu beaucoup de fun à le faire. Mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fun. Avec Plage Laval, l'écrivaine renoue avec Libre Expression, la maison d'édition qui a édité son premier ouvrage. Soutien-gorge rose et veston noir, une œuvre de chick lit, comme les gens disaient à l'époque. Ce livre avait fait un tabac. Rappelez-vous cet objet-là, cette première de couverture iconique et illustrée par Maud Gauthier, une buveuse de vin rouge, était-ce un cosmopolitain, juchée sur un tabouret de bar et chaussée de sandales à talons hauts, avec un chat sur les genoux et deux autres félins qui lui tournaient autour. C'était en 2004, et la dernière saison de Sex and the City était alors diffusée sur HBO. Le monde, il me semble, tournait encore à l'endroit. Puis, Raphaël Germain s'est distancié des comédies romantiques. Elle a montré sa polyvalence en prouvant qu'elle est à peu près capable d'écrire n'importe quoi. Des textes pour la télé? Souvenez-vous de la truculente émission Les Bobos? Tout comme des essais de longue haleine pour le magazine Nouveau Projet. Et même un livre de recettes, publié peu après Gin Tonic et Concombre. Celui-là, une compilation de bons plans culinaires, deux folles et un fouet, co-écrite avec son amie Jessica Barker. 13 années se sont écoulées entre Volte-face et malaise et son quatrième roman, celui qu'elle publie ces jours-ci. Le mouvement « Moi aussi » a eu le temps de prendre de l'ampleur, suivi de près par un ressac, une certaine montée de l'extrême droite et du conservatisme.
Dans l'ordre actuel des choses, on ne peut retrouver Raphaël Germain sous cette incarnation littéraire sans y trouver une forme de réconfort ni y céder à la nostalgie. Charme scandinave. Léger, rassembleur et taillé sur mesure pour le temps des vacances, Plage Laval pose une loupe sur une protagoniste de 48 ans pleine d'esprit, à l'image de l'autrice. Bien qu'on voit de plus en plus de femmes de cet âge-là dans les séries et à la télévision, elles se font encore rares, se désole Raphaël Germain. Je crois que c'est parce que les gens s'attendent à ce qu'elles soient settées, qu'elles aient rencontré l'âme sœur et fondé leur famille. Malgré les progrès, je pense aussi qu'on a moins envie de projeter du rêve sur des personnages qui ne sont pas jeunes et sexy. Après, il faut argumenter qu'on peut être sexy jusqu'à un âge vénérable, défendre qu'on puisse être autrement intéressant en vieillissant. Mais quand l'histoire concerne quelqu'un qui cherche sa place dans la société et qu'il y a une quête amoureuse en filigrane, on n'imagine pas nécessairement une personne qui approche la cinquantaine. Pourtant, ça fonctionne à merveille dans Plage Laval, à travers cette narratrice drôle et hésitante. Raphaël Germain l'avoue ouvertement. Cette protagoniste, pas piquée des vers, est inspirée par celle qui peuple les écrits d'Aur, Ava, Olafsdottir, la femme de lettres islandaise derrière Miss Islande, Rosa Candida, Eden et tant d'autres bouquins à succès. J'adore Aur Ava Olafsdottir. Ses livres mettent souvent en scène des héroïnes qui se font domper ou à qui il arrive des choses terribles et qui disent « fuck that » avant de partir au large pour vivre en marge du monde. Plage Laval est un clin d'œil à ça. J'avais pensé mettre une citation d'Olafsdottir en exergue, et finalement, je ne l'ai pas fait. Plutôt que de faire son nid sur les terres volcaniques du pays de Björk et de Sigur Rós, l'alter ego de Raphaël Germain, une Montréalaise fraîchement déracinée, trouvera refuge en banlieue, dans cette municipalité mieux connue pour l'inventivité de son architecture. Pensez au Cosmodôme et à son voisin, ce cinéma coiffé d'une improbable soucoupe volante surdimensionnée. La romancière, qui habite elle-même ce bout de pays depuis une décennie, brosse un tableau pittoresque et romantique de Laval-Ouest, ce quartier qui longe les berges de la rivière des Mille-Îles. Là-bas, son personnage est accueilli à bras ouverts par ses nouveaux voisins, tous plus colorés les uns que les autres, qui ne l'espéraient pas, mais qui ne tarderont pas à l'adorer. C'est dans cet improbable décor que la narratrice vit et télétravaille, un privilège que lui confère son statut de pigiste. Pour gagner sa vie, elle traduit des polars du norvégien au français, non sans critiquer les personnages féminins unidimensionnels qu'elle rencontre dans la foulée, ceux de Leif, au premier chef, un auteur de best-seller et un misogyne qui croit être un allié de la cause féministe. Par ce personnage, on dénote chez Raphaël Germain une certaine urgence de dire, de nommer le sexisme qui subsiste dans l'univers du livre. Pour la présente entrevue, en revanche, elle fait montre de retenue, d'une prudence certaine. Pour évoluer moi-même dans le milieu littéraire, je sais qu'il y a une place pour les femmes, qu'on est choyé, qu'on ne fait pas pitié. C'est un endroit où on peut s'exprimer. Mais il y existe néanmoins ce genre d'auteurs vedettes, même à notre petite échelle au Québec. Il y a des non-dits autour de certaines personnalités. Je voulais effleurer le sujet, dire que ces choses-là existent. Je ne voulais pas en faire un ouvrage didactique. Je ne voulais pas pointer du doigt, parce que c'est des réalités complexes. Mais je voulais, dans la mesure du possible, montrer qu'elles existent. Ce Norvégien fictif devient surtout un moteur, une manière d'incarner une idée qui transcende les rapports de force entre les hommes et les femmes. Je ne voulais pas que Leif soit une pure marde, lâche-t-elle, pinçant rire. Ça aurait été trop caricatural, trop facile d'en faire une espèce de chien sale complètement macho. Je trouvais ça plus intéressant que ce soit quelqu'un qui, par la négative, fait progresser la narratrice, parce que sa perception de la liberté, qui est très virile et patriarcale, est un repoussoir pour elle. Ce n'est peut-être pas si courageux et si hot que ça, finalement, d'être toute seule sur son bateau. La liberté, en fin de compte, n'est pas qu'individuelle. Elle peut se vivre, comme c'est le cas pour les personnages de Plage Laval, à l'échelle d'une communauté, de tout un voisinage. C'est le message que Raphaël Germain s'efforce de transmettre avec ce livre, de manière subtile, efficace. C'était Raphaël Germain et Elles vécurent heureuses. Un texte de Catherine Genet, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.
Tu veux m'éduquer? Commence par ne pas me crier dessus. Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue. L'autre jour, un ami hétéro, oui, j'en garde un ou deux pour la diversité, m'a confié « J'ai juste dit « il » au lieu de « yel » en parlant de quelqu'un, puis je me suis fait ramasser. » J'ai levé les yeux au ciel. Pas contre lui, contre ce climat où la peur de mal dire étouffe la volonté de bien faire. Une époque où poser une question sincère devient un champ de mine, où une maladresse, même bien intentionnée, suffit à te faire passer pour un oppresseur. Je suis queer, engagé, capable de parler en langage neutre avant mon premier café, s'il le faut. J'aime les mots, je connais leur poids. Mais plus ça va, plus je me demande, à force de vouloir corriger tout le monde à chaque faux pas, est-ce qu'on ne nuit pas notre propre cause? On ne peut pas balancer un glossaire militant dans la face du monde en espérant qu'il le sache par cœur d'ici le prochain brunch du dimanche. Et surtout pas en leur disant qu'ils sont des oppresseurs en devenir pour ne pas avoir employé le bon mot. T'as déjà essayé d'apprendre l'allemand pendant qu'on crie dessus parce que t'as mal prononcé « Geschlechtsidentität » Non? Ben voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on donne envie d'apprendre. Et aussi plate que ce soit, on n'impose pas la compréhension. C'est comme avec les véganes. Il y en a qui t'expliquent calmement. Grâce à eux, j'ai changé quelques habitudes. Mais si tu me traites de tueur de vache après que j'ai mis du lait dans mes Cheerios, je vais me commander un Big Mac extra bacon et le manger à 2 pouces de ta face. Juste par réflexe humain, se braquer quand on se sent attaqué. C'est pareil avec certains militants queer. Tu veux que je t'appelle Yel? Aucun problème. Tu veux m'expliquer ton identité de genre? Je suis tout oui. Mais commence pas à me punir de ne pas la connaître d'avance. Sinon, ben, je n'aurai plus envie de t'écouter. Pas parce que je suis contre toi, parce que tu m'auras fermé la porte avant même qu'on ait pu discuter. Je repense à cette fille à l'UQAM pendant mon bac en travail social. Elle m'est tombée dessus comme si j'avais pissé sur la statue de Simone de Beauvoir. tout ça pour avoir dit « les étudiants » au lieu de « les étudiantes et les étudiants ». J'avais beau dénoncer les inégalités, parler d'inclusion, rien à foutre. Un mot mal placé et paf, j'étais devenu un agent du patriarcat. C'était pas de la justice sociale, c'était un concours de pureté syntaxique. J'en ai parlé avec des amis gays plus âgés, des gars qui ont milité dans les années 80-90. Ils m'ont dit « Nous autres, on voulait juste vivre sans se faire battre à coups de matraque, pas imposer notre manière de vivre aux autres, juste exister, être accepté, puis qu'on nous sacre la paix. » Le militantisme queer a toujours été porté par des gens qui dérangent, qui bousculent, qui inventent des espaces qui n'existent pas encore. Mais il y a une différence entre déranger le système et déranger ceux qui veulent comprendre. Aujourd'hui, c'est comme si on était passé d'un extrême à l'autre. On veut que ça change tout de suite. Mais on oublie que le progrès, c'est pas un air fryer. C'est une mijoteuse. Ça prend du temps. Ça demande de la patience. On ne peut pas dire qu'on veut inclure et en même temps éjecter ceux qui ne suivent pas la recette à la lettre. Sinon, ce n'est plus de l'inclusion. C'est un club privé réservé à ceux et celles qui savent le lexique inclusif au grand complet. Et là, certains et certaines diront peut-être que je pense comme ça parce que je suis un homme blanc cis. Comme si ça effaçait tout le reste. Une jeunesse à me faire écœurer chaque jour pour mon TDAH, mon boitement, mon élocution et ma famille sur le BS. Je sais ce que c'est être rejeté. Un peu trop pour ne pas vouloir en reproduire les mécanismes, même au nom du progrès. Je comprends donc la colère d'être ignoré et invisibilisé. T'as plus l'énergie de répéter avec douceur. T'as envie que ça change, maintenant, et c'est légitime. Mais je comprends aussi la fatigue de ceux qui essaient et se font repousser parce qu'ils n'ont pas tout bon. J'ai vu des profs qui n'osent plus parler de diversité pour pas se mettre dans le trouble, des collègues bienveillants qui baissent les yeux de peur d'échapper un mot qui fâche, des alliés qui se retirent, ne sachant plus comment aider sans se faire taper sur les doigts. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas milité pour que, rendu ici, on transforme notre lutte en test d'admission pour élite linguistique queer. Le vrai militantisme, ce n'est pas de savoir qui a le glossaire le plus à jour ou le trauma le plus lourd. C'est de créer du lien, pas du rejet. Alors, si tu veux m'éduquer, commence par ne pas me crier dessus. C'était « Tu veux m'éduquer? Commence par ne pas me crier dessus ». Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue.